chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Les Neveux de René, une émission pour découvrir les textes classiques de la philosophie. Et nous sommes très heureux de retrouver ce générique, Emmanuel Pirard qui joue Télémane après une longue interruption, puisque remercie les studios de RCF de nous accorder donc l'asile et les moyens techniques pour enregistrer cette émission, sachant que le mois de février a été consacré au remplacement des systèmes d'enregistrement et des systèmes informatiques. Donc nous redémarrons l'enregistrement des Neveux de René avec un matériel tout neuf. Voilà, et qui n'est pas sans poser de problème, parce que à chaque fois, évidemment, l'informatique ne marche pas comme elle devrait le marcher. Alors, on va reprendre le cours de notre examen philosophique avec Pascal. On avait laissé donc nos discussions avec Pascal et nous reprenons donc le cheminement avec Pascal. Et donc, nous allons donner la parole avec de résumé qui sera confié à Nicolas Lemoine. Donc, vous êtes avec Nazim Fattès et Sylvain Contasso-Vivier. Et Anne Bonneau n'est pas là aujourd'hui.
Alors, la dernière émission fut l'occasion d'opérer une transition entre le Pascal savant, physicien et mathématicien, au Pascal métaphysicien, avec la question de l'infini. L'infini, c'est un objet mathématique. Il apparaît dans le descendant abouti de la machine à calculer de Pascal, qui est la machine de Turing universelle, qui, en quelque sorte, s'est fait chair dans l'ordinateur. L'ordinateur peut être vu comme une réification de cette idée qui est la machine de Turing universelle, dont les possibilités sont en droit, c'est-à-dire théoriquement, infinies. L'infini apparaît dans l'étude de la nature. Notre planète Terre n'est qu'un point par rapport à cette partie de l'univers qui contient le Soleil et les planètes. Et cette partie est elle-même un point par rapport à tout le reste. Mais nous-mêmes sommes un univers par rapport à tous nos constituants élémentaires. L'homme se tient entre l'infini et le néant, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Avant l'illusion scientiste du XIXe siècle, qui supposait après Descartes qu'en édifiant petit bout par petit bout la connaissance, on finirait par tout savoir, Pascal annonce que la science n'est pas achevable, et qu'une démarche scientifique accomplie conduit à l'humilité et même à l'humiliation. Cette illusion scientiste tenait beaucoup à ce que les mêmes lois physiques semblaient s'appliquer à toutes les échelles. Le mouvement d'à peu près toutes les planètes du système solaire est régi par les mêmes lois que la chute d'une pomme. On pouvait alors penser extrapoler. Mais en allant vers l'infiniment petit, les physiciens ont buté sur les phénomènes quantiques, puis sur la physique des particules, dont le nombre d'espèces croît au fur et à mesure que les accélérateurs produisent des collisions plus puissantes. De même, vers l'infiniment grand, l'univers présente des phénomènes si violents que notre physique peine à les décrire. Le physicien de haut vol qu'est Pascal connaissait l'importance de l'expérimentation, que Descartes a entrepris de théoriser. Ces phénomènes trop lointains, trop grands, trop violents, ne sont pas véritablement accessibles à l'expérimentation. La science à leur sujet redevient, à un moment ou un autre, purement spéculative. Ce qui, pour les modernes, constitue bien une humiliation. À cela s'ajoute la dimension du temps. L'homme ne vit qu'un instant, devant la grande histoire, et plus encore devant l'histoire du monde. Ce constat entraîne des conséquences métaphysiques. Les scientistes du XIXe pensaient s'extraire de leur propre chair pour accéder à un universel de surplomb, ce qui est ni plus ni moins le point de vue de Dieu, ce qui est très platonicien aussi comme position. Pascal remet l'homme à sa juste place. Pascal, bien avant les 68 arts, leur dit « D'où penses-tu, camarade ?» L'homme pense à l'échelle de sa propre chair, quand bien même il pourrait voir loin de là où il se trouve. Il ne peut accéder qu'à un universel latéral, selon le mot de Merleau-Ponty. Ce qui est très chrétien, finalement, comme position, le logos ne devient intelligible que quand il se fait chair, à un endroit et à un instant donné, avec toute la finitude qu'implique l'incarnation.
Mmh. C'était intéressant comme émission. merci Nicolas. Tu as voulu terminer ton résumé sur une réflexion sur le mot logos, hein, c'est ça. Mm-hmm. Et néanmoins, est-ce qu'avec Pascal, on n'est pas dans une autre dimension du logos que celle purement que tu as évoquée d'une incarnation qui est plus religieuse. Est-ce que on n'est pas justement du côté scientifique dans une autre dimension, ou alors on peut dire qu'il y a un parallèle entre les deux. Ce que tu essayes de dire, c'est qu'il y a un parallèle entre ces deux façons de comprendre le mot incarnation. C'est ça que tu as voulu souligner dans ton résumé.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'idée quelque part platonicienne, c'est qu'on peut s'extraire de soi-même pour gagner un point de vue qui est le point de vue de la vérité et qui domine tout. Et ce point de vue-là, il est illusoire pour l'homme. L'homme pense à partir de ce qu'il est, à l'échelle où il se trouve.
D'accord.
Et donc, il pense dans sa chair.
D'accord. Donc, c'est cette notion d'échelle qui t'intéresse, en fait, c'est ça, oui, d'accord. Alors, cette fois-ci, on a dit qu'on partait sur un autre éclairage de l'œuvre de Pascal qui est riche, qui a de nombreuses facettes. Et nous avons souhaité jeter notre dévolu sur la question du divertissement. Voilà. Alors, rien de mieux que de commencer à lire et d'écouter ce que nous dit Pascal à propos du divertissement.
Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent, dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre.
Merci. Alors, des commentaires, qu'est-ce que ça nous évoque, Sylvain, peut-être que penses-tu de ce premier paragraphe ?
Donc l'idée de Pascal ici, c'est d'expliquer que le problème que l'on a, d'une certaine façon, c'est qu'on va être poussé toujours à agir, à s'occuper en fait, hein, à occuper son esprit d'une façon ou d'une autre pour ne pas se retrouver finalement confronté à soi-même.
J'ai l'impression qu'il plaisante à moitié là, Pascal, non ? Parce qu'il nous dit... Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. C'est un peu une vie de prison qu'il souhaiterait nous donner, non ? C'est pas exagéré ?
Sans doute, il l'oppose au désir d'agitation permanente, et qui est sans doute plus que jamais le nôtre aujourd'hui.
Oui, et puis c'est pas anodin, parce qu'en fait, dans ce qu'il propose là, hein, derrière, il y a quand même l'idée de réfléchir justement sur soi, et sur l'être, et sur plein de choses... qui sont peut-être plus essentiels finalement que ce à quoi on passe notre temps dans l'agitation.
D'ailleurs, je crois qu'il y a au moins une personne qui a appliqué ça à la lettre, c'est Descartes. Hein, parce que Descartes, donc, il vivait, une grande partie de sa vie, il a vécu aux Pays-Bas, après avoir beaucoup voyagé, après avoir été sur les champs de bataille, à regarder comment étaient constitués les êtres humains, la politique, tout ça. Et à un moment, il voulait vraiment rester au repos dans une chambre. Devant son poêle. Enfin, il dit dans un poêle, rester au repos, oui, c'est l'expression qu'il utilise. Et en fait, il y avait des personnes qui pouvaient, de l'extérieur, alimenter... le poêle, donc le chauffage.
Il n'était pas dérangé.
Et il n'était pas dérangé. Voilà. Ah, ouais. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Quoi.
Bon. Alors justement, si on peut peut-être continuer la lecture. Oui. Hein, alors c'est un petit peu plus loin dans le même fragment. Hein.
Alors juste, on peut peut-être dire pour nos auditeurs qu'il s'agit du fragment numéro 136 chez La Fuma et 139 chez Brunschvig.
Voilà. C'est ça. Mais quand j'ai pensé de plus près et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison. J'ai trouvé qu'il y en a une bien effective, qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près.
Bon. Alors, comment comprendre cette condition faible et mortelle ? Qu'est-ce qu'elle signifie chez Pascal ? L'être humain, justement, si ça... raison l'amène à être de plus en plus fort. Pourquoi dit-il que notre condition est faible et mortelle, en fait ? Ou nous, habitants du 21e siècle, on n'a pas envie de dire que notre condition est faible et mortelle. Du moins, on n'a pas envie d'y songer.
On n'a pas envie d'y songer, Pascal.
Au final, justement, si on y réfléchit, là, typiquement, ce à quoi il fait directement allusion, hein, enfin, c'est même explicite, c'est la mort, tout simplement. C'est le fait qu'on sait qu'on va mourir, qu'on sait qu'on est sujet corporellement, enfin, physiquement, à une faiblesse, une certaine faiblesse. Hein, on peut être malade, on peut avoir plein de choses, des accidents, tout ce qu'on veut. Et donc, c'est la finitude. C'est la finitude de l'être. Et quand on est face à ça, ça fait peur. Mais quelque part, c'est un peu ça qui dit dans la misère devant laquelle on se trouve.
Tu dis, on sait qu'on va mourir, mais finalement, on sait sans le savoir.
Oui.
On le sait théoriquement.
On
le sait théoriquement, c'est quelque chose
qu'on ne réalise pas.
On ne réalise pas.
On n'y pense pas toutes les 5 minutes, et heureusement, parce que sinon.
Il y a ce mot de René Char qui peut nous éclairer, qui est l'éternité n'est guère plus longue que la vie. Voilà, et je trouve que ce mot résume assez bien cette tendance qu'on a à se croire quasi immortel. Enfin, chacun de nous a ce sentiment d'être là et d'exister.
Et que ça va durer.
Et que ça va durer, voilà.
C'est ça, oui, tout à fait. Alors, d'ailleurs, on peut continuer d'ailleurs sur le passage un petit peu plus loin. Il y a justement où Pascal explique, enfin donne les raisons pour lesquelles finalement on se rue comme ça sur l'agitation, on va dire. De là vient que les hommes aiment tant le bruit et le remuement. De là vient que la prison est un supplice si horrible. De là vient que le plaisir de la solitude est une chose incompréhensible. Et c'est enfin le plus grand sujet de félicité de la condition des rois, de ce qu'on essaie sans cesse à les divertir et à leur procurer toutes sortes de plaisirs.
Voilà. Et avant cela, il a aussi parlé des rois, puisque juste après le passage que tu as cité, Sylvain, il nous a dit « Quelques conditions qu'on se figure, si l'on s'assemble tous les biens qui peuvent nous appartenir, la royauté est le plus beau poste du monde, et cependant, qu'on s'en imagine accompagné de toutes les satisfactions qui peuvent le toucher, s'il est sans divertissement, etc., etc. Si le roi doit penser à la mort, à la maladie, qui sont inévitables, le voilà malheureux, et plus malheureux que le moindre de ses sujets qui joue et qui se divertit. » Voilà. Donc c'est vraiment que chez Pascal, cette idée, ce concept, si on peut dire comme ça, de divertissement, est centrale à la condition humaine. Hein. C'est pas quelque chose. Il faut pas prendre ça sur le thème des loisirs, je me fais une partie de tennis, etc. C'est au fait tout le temps que nous sommes dans le divertissement.
Que ce soit une activité professionnelle ou une activité de loisir, une occupation quelle qu'elle soit, nous évite d'avoir à se retrouver seul face à notre condition.
Voilà. Et tu cites, tu parles de l'activité professionnelle, Nicolas, on peut même se demander nous, hein, qui sommes pris dans une activité professionnelle trépidante et où on dit tout le temps « j'ai pas le temps », est-ce que notre époque n'a pas un surcroît de divertissement du fait de tous les moyens qu'elle peut nous proposer ?
Bien sûr. On pourrait se demander pourquoi, avec tous les moyens techniques dont on dispose et le niveau de chômage qui est observé dans nos sociétés, pourquoi ceux qui travaillent doivent travailler autant ? Et quelque part, ils ne souhaitent pas forcément travailler moins. Parce que travailler moins, ça veut dire se retrouver quelque part désœuvré, ou risquer de se trouver désœuvré.
C'est un risque, oui, parce qu'on peut toujours finalement...
On peut toujours s'occuper, évidemment.
Toujours s'occuper.
Surtout quand on a suffisamment d'argent pour pouvoir se payer des loisirs. Mais il y a dans la suractivité, dans l'agitation occidentale, et on peut voir aussi comment elle est vue de l'extérieur, depuis d'autres civilisations, comment les autres civilisations voient et jugent cette hyperactivité occidentale, quelque chose qui a à voir avec le divertissement, bien sûr, et surtout à une époque où on voudrait justement plus que jamais repousser les questions métaphysiques.
Ce qu'on pourrait penser, c'est qu'en fait, le fait de toujours esquiver ces questions de la maladie, de la mort, nous fragilise, quoi. On n'est pas capable d'y faire face, puisque tôt ou tard, il faudra s'y confronter. Et ce que cherche à faire Pascal, si je comprends bien, c'est à tourner notre regard vers cette chose-là je dirais même pas qu'il nous fait peur, mais peut-être qu'il simplement, on n'a rien à dire. Notre époque n'a peut-être rien à dire de la mort. C'est peut-être qu'on manque de mots aussi pour parler de la mort et de la maladie aussi.
Et surtout qu'actuellement, on voit bien avec le développement de, bien sûr, des progrès médicaux et autres, on essaie de repousser cette échéance au maximum. Hein. L'espérance de vie augmente, en tout cas dans certains pays, pas partout malheureusement. Mais... Donc on voit bien qu'il y a vraiment ce souhait de repousser ça.
Mais même repousser, cette durée reste infime par rapport à l'éternité.
Je crois que derrière, il y a quand même inconsciemment toujours ce désir de l'immortalité. Hein. C'est vraiment une course vers ça. Hein. Donc, voilà. Et du coup, si, si on peut justement compléter hein, la pensée de Pascal, pour le coup, on peut lire par exemple le fragment 165 hein, de Brunswick, 889 donc chez la Fuma, donc qui s'intitule Pensée. Alors bon, il y a du latin, je suis désolé pour la prononciation, hein, je suis pas sûr d'être à 100% correct. In omnibus requiem quae sibi. Si notre condition était véritablement heureuse, il ne nous faudrait pas divertir d'y penser pour nous rendre heureux. Donc, ce qui est intéressant avec ce passage, c'est qu'en fait, on voit que Pascal a une vision, comment dire, très, quelque part, très, très dure de la condition humaine, d'une certaine façon, hein, que finalement, l'être humain face à lui-même, il est malheureux.
C'est quand même une chose curieuse.
Voilà.
Une chose curieuse, oui.
Il y a vraiment une sorte de malheur par défaut, quoi.
Alors, je vous propose de faire une petite pause musicale et d'écouter Brel qui va nous parler de cet ennui, justement, de l'être humain face à lui-même.
Pourtant, les hôtesses sont douces aux auberges bordées de neige. Pourtant, patientes les épouses que les enfants ont prises au piège. Pourtant, les auberges sont douces où le vin fait tourner manège. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Pourtant les villes sont paisibles, où tremblent cloches et clochers. Mais le diable dort-il sous la Bible? Mais les rois savent-ils prier?
Nous reprenons l'émission avec les neveux de René. Donc, cette chanson de Brel, un petit commentaire? On retrouve le thème du roi, parce que...
On retrouve le thème du roi, oui.
Oui. C'est-à-dire que il y a quelque chose, un mouvement de la pensée chez Pascal, qui est de toujours montrer les paradoxes. Et je me souviens plus où il le dit, mais outre le fait hein, qu'il nous dit que il est surprenant que les rois soient toujours divertis, en fait, pour lui, je pense qu'il y voit une métaphore de la condition de l'être humain, qui est aussi comme un roi. Et il dit, je ne sais plus où dans les pensées, qu'il y a quelque chose de surnaturel, finalement, à ce que l'homme ne pense jamais à ces choses-là. Et au lieu de dire, c'est logique qu'on ne pense pas à la mort, pour lui, c'est tout à fait illogique. C'est quelque chose d'illogique. Je ne sais pas où il dit, c'est surnaturel.
Là, c'est juste après.
Oui, tu as la...
C'est-à-dire, dans un premier temps, il commence par dire que on ne peut pas se contenter d'un divertissement parce que c'est quelque chose qui ne dépend pas de l'homme. Et donc on ne peut pas compter là-dessus pour se rendre heureux et pour se masquer sa misère. C'est ce qu'il dit au paragraphe 170 chez Brunswick. Si l'homme était heureux, il le serait d'autant plus qu'il serait moins diverti, comme les saints et Dieu. Oui, mais n'est-ce pas être heureux que de pouvoir être réjoui par le divertissement? Non, car il vient d'ailleurs et de dehors, et ainsi il est dépendant, et partant sujet à être troublé par mille accidents qui font les afflictions inévitables. Donc on ne peut pas compter sur le divertissement pour nous protéger indéfiniment et tout le temps. Et on ne peut pas passer à côté de ces questions qu'on voudrait éviter, parce qu'elles nous mettent devant la misère de notre condition. Et donc, Pascal, après...
D'ailleurs, le fragment suivant complète bien, tout à fait ça, hein, donc il s'intitule « Misère ». Si on lit simplement, hein, c'est la seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement. Et cependant, c'est la plus grande de nos misères. Car c'est cela qui nous empêche principalement de songer à nous, et qui nous fait perdre insensiblement. Sans cela, nous serions dans l'ennui, et cet ennui nous pousserait à chercher un moyen plus solide d'en sortir. Mais le divertissement nous amuse et nous fait arriver insensiblement à la mort. Donc en fait, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit que finalement, ce qui est derrière tout ça, c'est quand même bien la mort et l'angoisse de la mort. Hein. Et du coup, dès que l'homme n'est plus occupé à quelque chose, bah, il risque de penser à ça. à sa finitude. Mmh. Et là, pour le coup, il est dans, bah, dans la tristesse ou dans la souffrance, d'une certaine façon.
Et quelque part, c'est vrai que l'homme chercherait à être diverti jusqu'au bout en arrivant insensiblement à la mort. Mmh. Ça, c'est dans Zarathoustra qui annonce et qui est déçu de soulever enthousiasme en proposant cette idée. Un peu de poison pour vivre et beaucoup de poison pour mourir.
Ah oui, je me souviens pas de ça.
Pour mourir sans douleur.
Je crois que justement, chez Pascal, on trouve l'histoire, pas d'un poison, mais il parle d'un venin. Il parle d'un venin, quelque part. Je ne me rappelle plus où, mais dans ce même long fragment. Donc, aussi une chose qu'on a oublié de faire remarquer aux auditeurs, c'est que le fragment divertissement est un des plus longs des pensées.
Oui.
Et donc, ça veut dire que Pascal l'a beaucoup médité, l'a beaucoup travaillé, et ça fait partie de quelque chose de central dans sa pensée. Alors, ça veut dire qu'au fond, on peut aussi anticiper sur nos prochaines discussions sur Pascal, c'est-à-dire que cette méditation sur la mort, sur notre finitude, doit nous amener à regarder l'immortalité, voilà, la possibilité d'une immortalité, et donc à cet argument du pari dont il faudra qu'on parle, et à savoir, est-ce qu'il y a possibilité d'une âme immortelle ou non.
Et ça ramène aussi à la pensée de Pascal, hein, qui dit que l'homme n'est fait que pour l'infini. Et donc c'est vraiment intéressant la dualité entre le fait que l'homme n'est fait que pour l'infini alors que lui-même est fini. Donc ça c'est vraiment un problème d'une certaine façon, enfin, c'est quelque chose qui est assez intéressant.
Mais effectivement le but de Pascal c'est d'amener l'homme face au mur pour qu'il soit contraint à se poser cette question et à se poser effectivement la question de l'après la mort et de la possibilité donc d'un dieu, et notamment du dieu révélé par Jésus-Christ, donc puisque faut pas oublier que les pensées sont comprises comme étant un projet d'apologie du christianisme.
Et en ça, il s'oppose à Descartes, puisque Descartes, c'est un dieu connaissable par la raison.
C'est plus subtil que ça. Descartes ne s'occupe pas des questions théologiques, il ne veut pas s'en occuper, et se limite au dieu connaissable par raison, qui en retour puisse justifier son activité rationnelle et son activité de recherche scientifique. Descartes ne dit pas que Dieu s'arrête là. Il ne rejette pas le christianisme.
Oui, tout à fait. Non,
simplement,
certainement pas.
Il limite scrupuleusement sa philosophie à cet aspect de Dieu.
Tout à fait.
Oui, il se place vraiment dans tout un contexte scientifique de raison, quoi.
Mais ça rend furieux Pascal.
Mais ça rend furieux Pascal parce que justement, pour Pascal, Dieu ne peut pas s'imiter.
Oui, parce qu'il y a l'aspect
la
du cœur qui est passé.
Ne peut pas s'imiter à la raison.
C'est ça. Mais aussi autre chose que je voudrais souligner, peut-être je t'ai coupé.
C'est pas grave.
Mais tu pourras reprendre. Excuse-moi, Nicolas, parce que je veux attraper cette idée-là avant la fin de l'émission. C'est l'idée d'insularité. Est-ce que quand Pascal nous parle de vide, de misère, tout ça, est-ce qu'il ne pressent pas un mouvement qui va être de plus en plus fort à partir de son époque, qui est finalement tout le monde veut être libre, tout le monde veut être comme des dieux infinis, etc. Mais on est libre face à d'autres gens libres et donc on est tout seul, on est isolé. Et est-ce que c'est pas cette époque-là qu'on est en train de vivre avec des gens qui sont de plus en plus isolés, comme Robinson sur une île.
Et sans doute, oui.
Oui, il y a un peu de ça, oui, je pense.
Et je pense qu'on est d'autant moins enclin à considérer sa mort qu'on est isolé et seul, et qu'on ne peut pas inscrire sa vie dans un sens, dans quelque chose de plus grand. Donc, moi, je dirais que ce mouvement du divertissement prend de plus en plus de force et de puissance à mesure que les hommes sont isolés les uns des autres.
Oui, ils ont plus besoin de se divertir.
Encore plus, plus. Je veux dire, ils ont besoin de se divertir de façon furieuse. Et comme le disait Nicolas, c'est-à-dire les gens qui sont tout le temps au travail de manière... Je dis pas qu'il faut pas travailler, mais si on est tout le temps au travail sans en sortir jamais, et puis... comme ça, c'est ça témoigne de quelque chose.
Cette boulimie d'activité.
Voilà,
oui,
une boulimie d'activité témoigne d'un problème. Oui, Nicolas, je t'avais interrompu.
C'est pas grave. Alors après, donc c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que le fait d'esquiver sans cesse et systématiquement ces questions fondamentales va prendre pour Pascal un trait moral, c'est-à-dire que celui qui ne veut pas s'occuper de cette question-là, c'est quelqu'un qui ne prend pas soin de soi-même, puisque s'il y a une vie après la mort, et s'il ne fait pas attention à ce qui pourrait arriver après, qui est tout par rapport au petit rien qui est la durée de l'existence humaine, eh bien, c'est quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance.
Oui. Oui, ça rejoint complètement Platon, là, pour le coup.
Exactement. Et donc, on voit qu'il y a une unité de la philosophie, en ce sens que les philosophes cherchent à nous convertir, en fait. Convertir peut être une espèce de autre chose que divertir, à nous conduire, à regarder...
À nous tourner vers
l'essentiel, voilà.
Et donc, j'irai ce petit bout du fragment 194. « Cette négligence en une affaire où il s'agit d'eux-mêmes, de leur éternité, de leur tout, m'irrite plus qu'elle m'attendrit, elle m'étonne et m'épouvante. » C'est un monstre pour moi.
Ah, voilà. Merci Nicolas, merci Sylvain, merci aux auditeurs et aux auditrices, merci à Dominique Herpelding pour la technique. Rendez-vous la semaine prochaine pour les Neudronnés.